Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. L'accomplissement de deux rêves, c'est ainsi que le pape François a présenté son 40e voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud lors de l'audience générale. Nous reviendrons sur le bilan qu'en a fait le Saint-Père juste après les titres. Plus de 11 200 morts. Le bilan des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. Le pape François a lancé un appel à la solidarité envers ces deux nations. Mercredi 8 février était la 9e journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des personnes. L'invitation du pape à lutter contre ce fléau. Nous reviendrons également sur ce thème dans la seconde partie de notre programme avec notre invité du jour, le père combonien Janvier Kabeya. L'actualité sociopolitique africaine nous conduira au Nigeria, en Ouganda, en Somalie entre autres. Voilà pour les titres. Les détails, c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Combé.
Comme après chaque voyage apostolique, le pape François a consacré sa première catéchèse de retour à Rome au bilan de sa visite au cœur de l'Afrique lors de l'audience générale de mercredi matin. L'évêque de Rome a évoqué son 40e voyage apostolique qu'il a emmené en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
Deux pays visités comme deux rêves réalisés. La RDC d'abord, une terre riche en ressources mais ensanglantée par la guerre, déplore François, réitérant l'image du diamant, source de discorde, violence et paradoxalement d'appauvrissement. Cela suffit, répète le pape comme lors de son discours aux autorités, cesser d'exploiter l'Afrique. François s'est souvenu de sa rencontre bouleversante avec les victimes de l'Est, sacrifiées sur l'autel des affaires illicites, dit-il, confiant être encore ému des femmes ayant déposé au pied de la croix des armes et autres instruments de mort. Le pape évoque aussi le moment enthousiasmant avec les jeunes et catéchistes congolais.
Pensiamo alla forza di rinnovamento che può portare quella nuova generazione di cristiani.
Pensons à la puissance de renouveau que peut apporter cette nouvelle génération de chrétiens, loue-t-il, saluant les nombreuses vocations du pays et invitant les prêtres consacrés à surmonter trois tentations, la médiocrité spirituelle, le confort mondain et la superficialité. Ensuite, le voyage a revêtu un caractère écuménique dans le plus jeune état du monde, le Soudan du Sud, avec les Anglicans et l'Église d'Écosse. François évoque un pèlerinage de paix pour que tous soient un dans ce pays éprouvé par la guerre et le drame des déplacés, qu'il est venu visiter, rappelle-t-il, pour les écouter et leur faire sentir la proximité de l'Église en première ligne à leur côté, car, conclut-il, Dieu place son espérance non pas dans les grands et les puissants, mais dans les petits et les humbles.
Merci Delphine. À l'issue de l'audience générale, le souverain pontife s'est une nouvelle fois exprimé sur la catastrophe qui s'est abattue sur la Turquie et le nord de la Syrie. Deux jours après, le bilan des séismes ne cesse de s'alourdir. Plus de 11 200 morts à l'heure actuelle. Le pape François a lancé un appel à la solidarité envers les populations de ces deux nations.
Il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni della Turchia e della Siria.
Mes pensées vont en ce moment aux populations de Turquie et de Syrie, durement touchées par le séisme qui a fait des milliers de morts et de blessés. Avec émotion, je prie pour eux et j'exprime ma proximité avec ces populations, avec les familles des victimes et avec tous ceux qui souffrent de cette calamité dévastatrice. Je remercie ceux qui s'efforcent de porter secours et j'encourage chacun à faire preuve de solidarité envers ces territoires dont certains ont déjà été meurtris par une longue guerre. Prions ensemble pour que nos frères et sœurs puissent avancer en surmontant cette tragédie et demandons à la Vierge de les protéger.
Questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e chiediamo alla Madonna li protegga.
À l'occasion de la 9e journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains, mercredi 8 février, le pape a encouragé la jeunesse engagée contre ce fléau qui exploite et asservit des millions de personnes vulnérables. Dans un message vidéo, François leur demande de se faire missionnaires de la dignité humaine, de marcher avec les victimes de la traite, contribuant ainsi à maintenir vivante l'espérance. Marie Duhamel.
Pèlerinage virtuel et physique, veillée de prière et même flash mob. Les jeunes sont cette année les protagonistes de la journée de prière et de réflexion contre la traite. Ce sont eux qui ont choisi de marcher pour la dignité, le thème de cette 9e édition. Et c'est naturellement à eux que s'adresse le pape François. L'époque est sombre, concède-t-il, appauvrie par la crise économique, les guerres, le changement climatique. Les plus vulnérables sont facilement recrutés par les trafiquants. Leur exploitation et leur asservissement limitent leur liberté et font d'eux des objets à utiliser et à jeter. Leur dignité est ainsi défigurée. C'est dans cette réalité que nous sommes appelés à agir, dit le pape, à unir nos forces pour tisser des réseaux de bien, pour répandre la lumière qui vient du Christ et de son évangile. Et François demande à ces jeunes de se faire missionnaires de la dignité humaine, contre la traite des êtres humains et contre toutes les formes d'exploitation. Eux qui veulent marcher les yeux ouverts pour comprendre les origines du fléau, avec un cœur attentif pour soutenir des chemins de libération, marcher ensemble aussi pour se soutenir et créer des sociétés inclusives. Tous, le pape les exhorte à ne pas se lasser, de chercher des moyens de transformer nos sociétés et de prévenir ce fléau honteux. Il leur demande de réaffirmer courageusement la valeur de la dignité humaine et dans leur marche de ne jamais laisser quelqu'un en arrière. Il faut avancer, dit-il, avec ceux qui sont détruits par la violence.
Merci Marie Duhamel. Direction l'église Famille de Dieu au Burundi. Les personnes consacrées du Burundi ont célébré la journée mondiale de la vie consacrée dimanche 5 février dans l'archidiocèse de Gitega au centre du pays au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Bonaventure Naïmana. L'évêque de Gitega a invité les consacrés du Burundi à être charitables envers les pauvres. Le compte-rendu de Cyril Sindaï Ziruka.
Les personnes consacrées, transformées par l'Eucharistie, témoins de la culture de la paix. Tel est le thème qui a guidé la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée le dimanche 5 février 2023. En la cathédrale Christ-Roi de Mushasha, archidiocèse de Gitega au centre du Burundi, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Bonaventure Naïmana, archevêque de Gitega, a exhorté les consacrés à être charitables envers les pauvres et misérables.
Le peuple de Dieu a besoin de voir en eux des témoins du Christ ressuscité dans ce monde marqué encore par la souffrance, la maladie, la misère, et que ces religieux et religieuses leur donnent un message d'espérance.
La journée mondiale de la vie consacrée se célèbre cette année pendant que l'église du Burundi est entrée dans l'année jubilaire de 125 ans. Le père Jean Bosco Nhebuwayo, président de l'Assemblée des supérieurs majeurs assumant un sigle, est satisfait de la croissance des vocations au Burundi.
Nous voyons beaucoup de familles religieuses, masculines comme féminines, qui augmentent en nombre. Il y a ceux qui ont déjà envoyé des missionnaires dans des pays africains. Tout ça sont des signes visibles qui indiquent qu'une fois que l'Église s'est grandie, elle devient missionnaire.
La journée mondiale de la vie consacrée se célèbre cette année pour la 27e reprise depuis son institution par le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, en 1996. Bujumbura, Cyril Sindaï Ziruka de Radio Maria Burundi pour Radio Vatican.
La Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, a ouvert dimanche 5 février en la cathédrale Sainte-Marie de Conakry les travaux de son 10e conseil permanent qui se tient sous le thème « Défis du terrorisme pour l'évangélisation en Afrique de l'Ouest ». Écoutons la seconde et dernière partie du message lu lors de la messe d'ouverture par Monseigneur Alexandre Bazier, évêque auxiliaire de Koudougou au Burkina Faso.
Chers frères et sœurs en Christ, dans l'esprit de l'Église Famille de Dieu en Afrique et de l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, nous voulons construire une fraternité et une solidarité universelle pour redonner espoir et soutenir l'espérance d'une paix durable dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, nous avons résolu de partager les réalités que vivent les populations du Sahel avec les acteurs internationaux stratégiques à travers des rencontres de plaidoyer et d'échanges. Mais comme le veulent la bienséance africaine et l'esprit de famille, il nous a semblé urgent et primordial de vous partager ces réalités afin que dans une solidarité agissant dans un esprit de communion, nous puissions porter plus loin la voix des églises du Sahel, cette voix amplifiée qui est désormais celle des églises d'Afrique de l'Ouest, a reçu aujourd'hui le soutien des conférences épiscopales de l'espace Seraou que nous remercions de tout cœur. Chers frères et sœurs en Christ, en vous adressant cet appel, nous attendons et espérons une forte implication et une plus grande participation des communautés chrétiennes ouest-africaines dans la lutte contre l'expansion de la violence au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour renforcer les cadres et les mécanismes endogènes de réconciliation et de paix. Dans cette marche pour la reconquête de la paix au Sahel et en Afrique de l'Ouest, votre engagement et votre contribution individuelle ou communautaire, quelles qu'en soient les formes, seront précieux et déterminants.
Monseigneur Alexandre Bazier, évêque auxiliaire de Koudougou au Burkina Faso et coordonnateur des groupes de travail Initiative Paix au Sahel, dans des propos recueillis par la radio Voix de la Paix de l'archidiocèse de Conakry en Guinée. Voilà pour les nouvelles de l'Église. Place à présent à notre page sur l'actualité sociopolitique africaine que nous ouvrons avec le Nigeria. La commission électorale nigériane a assuré mercredi que l'élection présidentielle sera bien organisée comme prévu le 25 février et celle des gouverneurs le 11 mars, malgré les pénuries massives d'essence et de nouveaux billets de banque qui paralysent le pays. Le président de la commission, Mahmoud Yakubu, a rassuré que la centrale électorale a trouvé une solution pour faire face à la pénurie d'essence, notamment pour le déplacement du personnel et du matériel pour les élections, après avoir rencontré la direction de la compagnie pétrolière nationale. L'Ouganda ne renouvellera pas le mandat du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies qui doit prendre fin cette année. Le pays estime avoir développé des institutions internes dynamiques sur les droits humains. C'est ce qu'a déclaré Henri Oriem Okello, ministre adjoint des Affaires étrangères. Dans une lettre transmise au Haut Commissariat des droits de l'homme, le gouvernement ougandais promet de poursuivre sa coopération avec le siège de l'organe directement ou par l'intermédiaire de sa mission permanente à Genève. Une décision aussitôt critiquée par Muada Nkunungi, membre de la plateforme d'unité nationale dirigée par Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, l'un des principaux opposants au président Yoweri Museveni, dénonçant une volonté de Kampala de violer les droits humains sans entrave. Au moins 3 personnes ont été tuées mardi soir lors de l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'est de la République démocratique du Congo, nouvelle action hostile à la force onusienne accusée par la population d'inefficacité face aux groupes armés. Le convoi de la MONUSCO revenait d'une mission de ravitaillement à Kiwanja, localité située à quelques 70 km au nord de Goma où il se rendait, accompagné par des militaires congolais quand il a été attaqué par des manifestants. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées, tandis que les casques bleus et les phares d'essai tentaient de protéger le convoi, déclare la MONUSCO dans un communiqué. Une enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables, ajoute le texte de la MONUSCO. L'ONU a réclamé mardi une enquête indépendante et impartiale sur les affrontements dans la région somalienne séparatiste du Somaliland qui, selon elle, ont fait au moins 20 morts et 119 blessés. Les violences ont démarré lundi entre les forces armées du Somaliland et des milices loyales au gouvernement central somalien dans la ville disputée de Las Anod dans la République autoproclamée du Somaliland. Les affrontements avaient commencé quelques heures après que des chefs coutumiers du territoire de Sol, où se trouve Las Anod, avaient publié une déclaration s'engageant à soutenir l'unité et l'intégrité de la République fédérale de Somalie, exhortant les autorités du Somaliland à retirer leurs forces de la région. Terminons cette page d'actualité avec la Mauritanie. Le procès historique de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz pour enrichissement illicite peut continuer. Le tribunal a décidé mardi de ne se prononcer sur les contestations de sa compétence qu'à la fin des débats. Pendant des jours, les avocats des partis avaient bataillé sur la compétence du tribunal, la défense plaidant que la chambre criminelle ne pouvait pas juger M. Aziz et sa dizaine de co-accusés. La cour a finalement décidé que cette question serait tranchée en même temps que celle de la culpabilité ou non des accusés après les débats sur le fond de l'affaire. Notre invité du jour est le père Janvier Kabeya Mbinze, missionnaire combonien du Cœur de Jésus. En poste au Soudan du Sud depuis plusieurs années, il s'est réfugié avec les fidèles de sa paroisse dans le nord de l'Ouganda en raison des conflits dont le plus jeune état du monde est le théâtre. À l'occasion de la fête de Sainte Joséphine Bakita, mercredi 8 février, proclamée par le pape François comme journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains, le père Kabeya nous donne son témoignage sur cette plaie qui est encore d'actualité. Il commence par nous parler de la place spirituelle qu'occupe la Sainte Bakita dans la mission de l'Église. On l'écoute.
Aujourd'hui, effectivement, liturgiquement, nous célébrons la fête de Bakita. Moi, j'ai eu l'opportunité, quand j'ai travaillé au nord, d'aller visiter les villages où Bakita est né. C'est dans les Darfour. Nous avions notre paroisse de Niala, et donc nous sommes partis avec les confrères de Niala pour visiter les villages de Bakita. Nous avons passé toute la journée là, avec les gens que nous avons trouvés, ils nous ont raconté un peu l'histoire de ce qu'ils pouvaient se rappeler. Donc Bakita, c'est cette petite fille qui était née là et qui a été vendue au temps de l'esclavage, revendue plusieurs fois, jusqu'à atterrir à Venise. Et j'ai eu la chance de visiter aussi Venise quand j'étais là, jusque là où elle était laissée pour les soins, chez les sœurs canossiennes. Et je suis arrivé là-bas à Schio aussi, j'ai visité les reliques qui sont restées là, et les travaux qu'elle faisait. Je connais particulièrement Bakita dans ses sens spirituels parce que au Soudan, nous avons nos deux grands saints patrons. Nous avons Komboni, notre fondateur, et Bakita, notre maman. Quand nous parlons de Bakita, pour nous qui avons travaillé au Soudan, c'est notre maman et nous l'avons à cœur. Quand j'étais à Rome, quand on faisait toutes ces réflexions, toutes ces marches même, j'ai participé à quelques marches jusqu'à Saint-Pierre. Et là, on participait aussi à l'Angelus avec les papes. Pour nous, c'est très important, les jours de réflexion et aussi des prières pour lutter contre la traite des êtres humains, the human trafficking, comme on l'appelle.
Quelle est la situation de la traite des êtres humains en Ouganda où vous êtes réfugié et comment vivez-vous cela dans le camp de réfugiés où vous menez votre apostolat?
Et ici où nous sommes, notre situation justement fragile, vulnérable de réfugiés comporte beaucoup de tentations dans ce sens. Moi, je connais même une famille, parmi nos familles ici, on est venu me les rapporter, qu'ils étaient tellement souffrants, la famille peinée, qu'ils voulaient même vendre un enfant. On a dû intervenir vite pour que les choses pareilles ne s'effacent pas et que ça ne se répète plus. Ici, en Ouganda même, je fais partie de la commission où nous sommes en train de militer pour que l'épiscopat puisse publier vraiment quelque chose contre le trafic humain. Ici, c'est évident, ça s'est fait. Moi-même, j'ai été témoin, je l'ai vu. Quand j'étais à l'Interpol, j'ai parti pour mes documents, j'ai trouvé un grand nombre de filles, une cinquantaine de filles. J'ai demandé, mais pourquoi ces jeunes gens, ils vont là et puis les papiers, ça passe très vite comme ça. Alors quelqu'un m'a dit, ah, ce sont des filles qu'on envoie dans les Moyen-Orient, Middle East, etc. pour aller travailler. Mais en fait, ce sont des esclaves. Ils sont en train de les vendre comme des esclaves. Une fois qu'ils vont dans les Moyen-Orient, on ne confisque tous les papiers, ils sont exploités au maximum. Donc c'est une réalité criante.
Quelle est la pastorale de l'Église locale pour mettre un terme à ces fléaux?
La conférence épiscopale de l'Ouganda a publié les policy books, on appelle ça les policy books, sur la sauvegarde de l'enfant, sur les droits de l'enfant, la sauvegarde de l'enfant, la protection de l'enfant. Et ceci concerne pas simplement la protection des enfants contre les abus de tout genre, mais aussi protéger ceux qui travaillent avec les enfants. Alors dans ce sens-là, nous l'avons, par exemple, pour notre vie consacrée, nous avons exploité ces documents-là pendant le temps qu'on s'est préparé pour le 2 février. On a fait les workshops, nous avons invité même le secrétaire général de l'épiscopat pour pouvoir nous parler de ces choses.
Quelle action votre charisme de combonien entend mener afin que la traite et les nouvelles formes d'esclavage disparaissent?
Nous sommes en train de pousser pour qu'on publie aussi une politique contre les trafics humains. Et donc avec Bakita, ça tombe juste qu'il faut travailler vraiment de cœur, surtout nous les comboniens, parce que Kombon lui-même, dans nos CHR, il a lutté contre l'esclavage et il s'est vraiment déployé pour cela. Nous avons des centres qui sont nés, que ce soit Malbès au Soudan ou même Zamalek en Égypte. Ce sont des centres où on a gardé des chrétiens, des gens qui étaient rachetés, disons les gens convertis, qu'on faisait ces centres comme des villages chrétiens qui rayonnaient avec des travaux spécifiques comme l'agriculture et d'autres.
C'était le père combonien Janvier Kabeya, missionnaire au Soudan du Sud, dans des propos recueillis par Marie-Josée Moindo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Combe a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.